Bonsoir à tous, chers auditeurs de Syllab, et merci à toute l'équipe de J'irai cracher sur vos ondes de me permettre de rendre un dernier hommage à Stan Lee qui nous a quittés la semaine dernière. Dans cette chronique, j'ai voulu parler de ce grand monsieur et de tout ce qu'il avait apporté dans le monde merveilleux des super-héros.
Which character is, would you say, is closest to your own character and personality?
I don't know. I'd like to think that I'm an amalgam of all of those characters. All of their best features are probably based on me.
Stan Lee nous a donc quittés la semaine dernière, le 12 novembre, au bel âge, il faut le dire, de 95 ans. Pour les plus vieux d'entre nous, Stan Lee était un nom écrit en gros sur la couverture des comics que nous achetions chez le libraire. Pour les plus jeunes, c'était le sympathique vieux monsieur qu'on aperçoit dans chaque film du Marvel Cinematic Universe. Il était scénariste, rédacteur en chef et éditeur de Marvel Comics. Surtout, il participe à la création de tous les grands super-héros comme Spider-Man, Hulk, Wolverine. Il a également profondément modifié la façon de percevoir les super-héros et la façon de vendre des comics. Revenons donc à ses débuts. Le petit Stan lit beaucoup et nourrit son imagination avec des bandes dessinées comme les grands classiques de littérature. Il travaille dans les comics dès le début de sa carrière, mais c'est surtout au début des années 60 qu'il commence la révolution du monde du divertissement. Pour cela, il n'est pas tout seul. Il est accompagné de Jack Kirby et Steve Ditko, et ensemble, ils proposent des histoires et des personnages qui diffèrent des codes de l'époque. Car oui, je vous ramène dans les années 60, c'est DC Comics qui domine le marché avec une recette gagnante à base de super-héros en collant et d'histoires qui sont bon le patriotisme. Le premier impact qu'a Stan Lee est donc de mettre en scène des personnages imparfaits. Alors, je m'explique. Ces personnages sont définis aussi bien par leurs super-pouvoirs que par les difficultés qu'ils rencontrent dans leur quotidien. L'idée, aussi simple que géniale, est de présenter au public des personnages extraordinaires avec des défauts très ordinaires. Ainsi, le lecteur peut plus facilement s'identifier à des personnes qui ont des problèmes de santé, d'argent ou tout simplement une vie amoureuse très compliquée. Par exemple, on voit des héros de Marvel qui font preuve de mauvaise foi, qui font des choix funestes et qui s'engueulent en plein combat avec des super-héros. Et voilà que vole en éclats le cliché du super-héros aux muscles saillants et à la cape au vent, notamment incarné par le tout-puissant Superman. On laisse la place à des personnages torturés qui questionnent constamment le rôle du héros dans la société, ce que je trouve nettement plus intéressant. Le premier exemple arrive en 1961 avec les 4 Fantastiques, un groupe de super-héros qui incarne en fait une espèce de famille un peu dysfonctionnelle, et qui permet ainsi d'explorer les relations sœur-frère et mari-femme. On a également Tony Stark, alias Iron Man, qui est un génie milliardaire, mais qui est surtout connu pour être un énorme...
Genius, billionaire, playboy, philanthropist.
Je vais pas être vulgaire, mais voilà, c'est plutôt... on peut le qualifier de mégalomane. Voilà, un mégalomane qui fait face à, quand même, de graves problèmes d'alcoolisme. L'écriture de Stan Lee est aussi très reconnaissable, car il était capable, en fait, de savamment doser la comédie avec le drame. L'idée derrière ses choix était que le lecteur passe autant de temps avec le super-héros que l'homme ou la femme derrière le masque. Il cherchait, dans leur vie et dans leur dilemme, les raisons de leur engagement. Est-ce qu'ils sauvent des vies par altruisme? Est-ce qu'ils sauvent des vies par orgueil? Ou tout simplement parce qu'ils en ont besoin? Les traumatismes que fait vivre quand même Stan à ses personnages apportent les nuances dont nous avons besoin pour nous attacher à eux. D'ailleurs, la phrase que répète constamment Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, est un mantra que Stan Lee applique à tous ses héros. Je vous le disais, Stan Lee était un féru de littérature. D'ici... a souvent tendance à s'inspirer de la mythologie grecque pour construire ses personnages. Stan, lui, préfère piocher dans les grands classiques contemporains. Par exemple, Bruce Banner et son alter ego Hulk sont des références directes à Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et pour le physique, on s'inspire vite fait du monstre de Frankenstein. Cette recherche de réalisme dans la personnalité des super-héros va mener Stan à avoir un deuxième impact sur l'industrie, à savoir l'introduction des enjeux de société dans les comics. Les débats sur l'ordre et la morale sont fréquents dans les histoires de Stan Lee. En effet, car les héros de Stan Lee sont pour la plupart des vigilants. C'est-à-dire en fait des héros hors la loi. C'est-à-dire qu'ils veulent sauver des vies, mais ils sont poursuivis par les flics. Si vous aimez les questionnements philosophiques, je vous invite d'ailleurs à lire les épisodes de Daredevil, le héros sans peur qui repousse sans cesse en fait les limites de ce qui est juste ou pas, et qui questionne justement le rôle du héros. En 1963, arrivent dans nos librairies les X-Men, des super-héros mutants. C'est-à-dire en fait des super-héros qui sont nés avec leurs super-pouvoirs. Comme ça, hop, on se pose même plus la question s'il y a une araignée radioactive qui est passée par là. Ces personnages, en fait, font face aux discriminations, au rejet de la société, et sont mis au ban. Et cela n'est pas sans rappeler le contexte de l'époque avec la ségrégation. D'ailleurs, Charles Xavier et Magneto sont inspirés des leaders pour les droits civils, des Noirs américains, Martin Luther King et Malcolm X. La guerre du Vietnam et les mouvements étudiants sont également introduits dans les cases des comics de l'époque. D'ailleurs, nous arrivons dans les années 70 et ce sont les environnements cosmiques qui commencent à s'impuer. Les dessins deviennent très psychédéliques. C'est une façon d'apporter de la science-fiction en fait, dans les œuvres de Marvel, et c'est la preuve aussi que la maison des idées sait comment saisir l'air du temps. Le troisième et dernier grand impact qu'eut Stan Lee sur la façon de créer des comics est de réinventer en fait, le rapport entre les auteurs et les lecteurs. Car oui, les auteurs étaient peu mis en avant à l'époque, à peine des petits noms en bas de page. Mais quand Stan Lee est arrivé, il fit mettre en gros en fait, le nom des créateurs sur les couvertures. Cette starification eut pour effet de montrer que le nom d'un auteur peut être un gage de qualité. Stan Lee devient donc en fait une sorte de figure de pro de la profession et son visage devient connu pour tous les fans de comics. C'est pour cela, amis auditeurs, que la mort de Stan Lee est une énorme perte. Mais son héritage doit continuer de vivre et c'est ce qu'il faut garder en tête. Alors, vive Stan Lee, lisez des comics et Excelsior.